Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher.
Bonjour Apolline.
Merci de répondre à mes questions ce matin et j'en ai plein. Plein parce que vous êtes le président de coopérative U. C'est les magasins U bien sûr, mais c'est aussi les stations U. 1000 stations essence sur tout le territoire. Il y a eu ce projet de décret hier du gouvernement. Il est écrit, il est prêt, disent-ils. L'idée c'était d'encadrer les marges des distributeurs. Et quand on voit la colère dans laquelle ça vous a mis, vous, mais aussi tous vos camarades distributeurs, à la fin, je reviens même à me dire qu'ils ont peut-être quand même touché sur un point sensible. Vous avez réagi, ultra réagi, vous avez tout de suite écrit et vous êtes tous très en colère.
Mais non, mais on a réagi parce qu'on sait que ça va être contre-productif s'il est mis en œuvre. Alors ce matin, je vais vous dire...
Est-ce que vous avez réagi aussi parce que finalement, il y avait peut-être de l'argent à perdre ?
Mais non, je relativise. Déjà, j'ai entendu la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dire que rien n'est décidé et que rien n'est fait. Moi, je prends le pari que... Il ne sortira pas ce décret. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas laisser croire aux Français que ça changerait quelque chose. Je rappelle la séquence. La séquence, c'est quoi ? On démarre cette crise et rapidement, il y a des contrôles dans les stations. 500 contrôles, plus de 500 contrôles pour vérifier.
Annoncé personnellement, directement par le Premier ministre.
Tout à fait. Et en fait, de ces contrôles, il ne sort quasiment rien. Symboliquement, quelque chose, mais de notre côté, en tout cas, rien. Pas d'alerte, etc. Ensuite, nous, on fait de la pédagogie pour expliquer pendant de longues semaines la réalité du marché du carburant. Et au bout de 5 semaines, j'ai mesuré, au bout de 5 semaines, les observateurs, les journalistes, des hommes politiques ont commencé à dire « Non, le sujet n'est pas chez les distributeurs. » Même le ministre de l'économie a dit « Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est une enquête sur les marges des raffineurs. » Il a demandé ça à Bruxelles.
On va y revenir, oui.
Et au bout du compte, on revient avec ce décret qui nous cible, nous, comme des boucs émissaires, une fois de plus, on n'a pas compris. Et c'est ça qui nous a surpris.
Alors, vous n'avez pas compris, on va venir évidemment au fond de ce qu'il vous demanderait ou ce qu'il ferait. D'abord, vous n'y croyez pas. Ce décret ne verra pas le jour.
C'est une usine à gaz qui ne changerait pas le quotidien des Français. Donc, faut pas laisser croire ça. Et je veux dire, ce serait contre-productif pour le gouvernement aussi. Au bout du compte, ça changerait rien sur une activité où on ne gagne rien.
Vous dites c'est injuste, inapplicable et illégal. Voilà ce que vous écrivez avec vos confrères, les dirigeants de Carrefour, d'Auchan, d'Intermarché, de Leclerc. Vous êtes donc les 5 premiers distributeurs français et vous dites c'est absurde. Sauf que l'objectif officiel, en tout cas du gouvernement, c'était d'identifier, je cite, d'éventuelles surmarges. Est-ce qu'elles existent, ces surmarges ?
Mais elles peuvent exister très ponctuellement.
Est-ce qu'en ce moment elles existent ? Parce que quand même, on comprend pas pourquoi ça baisse pas.
Alors ça, c'est une excellente question que j'ai tous les jours. Pourquoi ça monte très vite et pourquoi ça baisse beaucoup plus lentement? Mais saviez-vous que ce sujet aujourd'hui est documenté? Il y a des articles d'économistes aujourd'hui qui expliquent le sujet. Quand ça monte, nous, on achète au jour le jour des camions en fonction du cours à Rotterdam. C'est monté très haut, très vite. Ça déclenche immédiatement la mobilisation des gens qui ont peur que le prix augmente encore plus et qui ont peur, voire, de pénurie. Donc, les stocks, les cuves se vident très vite et donc le prix est haut assez vite. Mais quand ça diminue, c'est beaucoup plus lent. Pourquoi ? Parce que les gens pensent que les prix vont baisser.
Et donc, ils attendent ?
Ils attendent actuellement nos clients, mais... Le nombre de clients qui font des plaintes de 20 euros, 25 euros, parfois que 15 euros, en disant « je prends le minimum, ça va baisser ». Et donc, les stocks se vident tout doucement. Et après, on le voit bien, un jour le cours monte, un jour il baisse. Ça ne descend pas, les cours ne baissent pas aussi vite qu'ils ont monté. Alors, voilà, tout ça cumulé fait la situation d'aujourd'hui.
On va essayer quand même de comprendre comment ils pourraient baisser ces fameux prix à la pompe, Dominique Schelcher. Deux points sur votre solution, on va y revenir. Vous proposez de décaler au moins dans le temps votre participation à l'effort d'électrification et de transition énergétique. Bon, et puis il y a ce courrier, effectivement, vous le dites, au fond, il y avait eu comme deux mouvements parallèles. Le gouvernement hier affiche qu'il vous met la pression avec ce projet de décret. Et puis parallèlement, il a écrit à la Commission européenne. C'est ce que BFM TV vous a dévoilé ce matin. Maud Bréjon et Roland Lescure ont écrit à la Commission européenne pour demander une enquête sur les marges des raffineurs. Là, on parle plus de vous, distributeurs,
ouais,
on parle
des
raffineurs. Ils disent, face au risque de collusion et de manipulation, la France souhaite que soient mises en œuvre au niveau européen des actions permettant d'améliorer la transparence sur la formation des prix. La France constate, depuis le début de la guerre en Iran, une forte hausse des prix des produits pétroliers raffinés, en particulier de gazole et de kérosène, au bénéfice des raffineries dont les marges ont fortement augmenté depuis février. En fait, c'est Total le problème.
C'est Total, les d'autres raffineurs, parce qu'il n'y a pas que Total, et aussi peut-être les spéculateurs de ce marché. Parce que quand c'est monté aussi vite, ils ont craint quoi ? Ils ont craint une pénurie, mais au bout du compte, c'est qui le paye ? C'est le consommateur final. Et donc ça, c'est embêtant. Et donc voilà, moi je suis content que cette enquête soit déclenchée. Ça avait été annoncé il y a quelques jours. Et donc, d'autant plus, on comprend moins que ça se retourne encore une fois vers nous.
À quoi il joue le gouvernement là ? Il fait quoi ? Il fait du chantage avec vous ? Il vous dit attention, on a ce décret qui est prêt et ils se disent au moins c'est une menace ?
Apolline de Malherbe, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai un peu d'expérience maintenant. Il y avait déjà eu des choses avec un moment, il y a quelques années, pendant la guerre en Ukraine, il y avait eu un pic aussi sur les prix du carburant. Et là, on nous avait demandé de vendre à perte. Et c'était exactement le même scénario.
C'est illégal.
Et ça n'était pas possible, on ne pouvait pas vendre à perte, mais ils voulaient prendre un texte, on l'a expliqué longuement, et le texte n'est jamais sorti. Je pense qu'on est dans le même scénario cette fois.
En fait, c'est quoi ? C'est du bluff ? C'est du chantage ? C'est une forme de dissuasion politique ?
Mais je comprends aussi le gouvernement qui est pieds et poings liés avec une marge de manœuvre budgétaire qu'il n'a pas. Et donc, à un moment, il cherche des solutions. En l'occurrence, celle-là n'est pas une bonne solution pour aider les Français.
Vous faites
parce
quoi
qu'au
comme
bout
marge
du compte,
vous faites quoi comme marge ? Au litre, il y a combien qui arrive dans les poches de
litre,
coopérative ?
C'est 1, 2 ou 3 centimes. Mais quand la période est aussi tendue que ça, les clients, tous les jours, regardent le totem avec les prix devant les magasins. Tous les jours, ils ne regardent que ça et ils vont moins cher. Donc, si vous n'êtes pas dans votre zone...
De toute façon, vous êtes obligé d'être compétitif.
Mais bien sûr, on est obligé. Et si on ne le fait pas, je vous assure, les clients partent ailleurs et ils ont raison de travailler et de faire comme ça au jour le jour.
Alors maintenant, on fait quoi ? La question, comme on le disait, des raffineurs. Alors, principalement Total pour nous en France. Est-ce qu'effectivement, en vrai, c'est à eux de faire l'effort ?
Je pense qu'il y a des marges de manœuvre à ce niveau-là. Je rappelle quand même, la presse a révélé il y a quelques jours que rien que sur le mois de mars, grâce à des positions spéculatives, Total Energy a fait 1 milliard de résultats sur une opération très précise.
Ils ont particulier acheté immédiatement.
Voilà.
Alors votre confrère et concurrent Michel-Édouard Leclerc disait au fond c'est très bien joué du point de vue économique, voyant le début de la crise. Monsieur Pouyanet, le patron de Total, a acheté immédiatement 7 pétroliers pleins en se disant ça fera du stock
tout à fait
avant que les prix ne montent.
Exactement. Donc je dis bravo à Total Energy, je dis bravo à ses résultats.
Ça veut dire qu'il y a du gras.
Voilà,
il y a 1 milliard.
Voilà, et c'est pour ça que pendant la crise il y a quelques jours, je lançais aussi un appel aux pétroliers à nous vendre à nous aussi moins cher, pour qu'on puisse tous vendre un peu moins cher aux Français. C'est la seule chose qui compte.
Donc il y a la question des marges des raffineurs, il y a la question des taxes de l'État. Quand on regarde nos voisins, Italie, Espagne, Allemagne baissent les taxes. Est-ce que vous estimez que la France doit le faire ?
On n'a plus de marge de manœuvre budgétaire et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Et donc pour moi, le vrai sujet derrière tout ça, je dirais, on est au bout du sujet et enfin, il faut prendre les mesures qui nous ferait en France dépenser moins, réduire ce fameux déficit et dégager des marges de manœuvre en cas de crise.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le problème, il est global pour vous ?
Tout à fait.
Ce sont les choix budgétaires de la France.
Mais oui, c'est une histoire de ces dernières années qui nous conduisent là. Les pays européens qui ont pu faire des efforts sont en meilleure posture budgétaire, ont une meilleure croissance, ont un déficit qui s'est amélioré ces derniers temps. C'est pas le cas de la France. Et donc, pour moi, c'est un signal de dire on est au bout. Maintenant, quelles sont les mesures qu'on prend pour changer cette situation ?
Ce que vous dites, c'est que vous comprenez que, en l'état actuel, et si les arbitrages budgétaires n'avaient pas été ceux, finalement, assez peu courageux, si je vous entends, des derniers temps, on aurait pu baisser les taxes. Mais en l'état, on peut plus.
En l'état, je pense qu'on ne peut plus, malheureusement. Et pour moi, la seule solution serait éventuellement, donc pas une baisse, je pense, de taxes peut-être massive, mais d'aider à terme ceux qui en ont le plus besoin.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une aide ciblée. Avaient été promises, ces aides. Elles ont été un tout petit peu mises en place, mais enfin, surtout sous forme de prêts ou de garantie, ouais, mais pas tellement en termes d'aide. Je recevais hier un infirmier libéral, représentant de la profession, qui disait on en est à refuser de nouveaux patients parce que ça nous coûte d'aller faire des actes, notamment lorsque l'on est dans un monde rural avec des personnes isolées, des personnes âgées, et donc qui vont se retrouver à ne plus être soignées.
Par exemple, ce public-là, mais aussi les transporteurs, les pêcheurs, pour qui c'est impactant immédiatement. Eux, c'est leur revenu qui baisse immédiatement, et les agriculteurs. Mais ça, c'est au gouvernement de décider. Voilà, moi je...
Donc, ces taxes, ok, on n'en a pas les moyens. Les aides, vous vous dites, attention, il faut aider et vraiment cibler ceux qui en ont le plus besoin. Et puis, vous proposez, avec les autres distributeurs, de suspendre temporairement la collecte des certificats d'économie d'énergie. Alors, on se souvient, ces certificats d'énergie, c'est arrivé il y a quelques mois. C'est une manière de contribuer la transition énergétique.
Ça existe depuis un certain temps, mais ça a été revalorisé au 1er janvier.
15 à 20 centimes par litre. C'est pas une taxe, c'est vous qui en quelque sorte êtes vos propres collecteurs d'impôts.
Exactement.
C'est-à-dire vous mettez de côté ces centimes. Pourquoi vous le faites pas tout de suite de arrêter ces 15 centimes, vous pourriez tout de suite faire baisser, non?
Ah ben non, mais nous on n'a pas la main sur ce sujet-là. On est obligé aujourd'hui de respecter les textes et de collecter ça. Donc il faudrait une décision
Il me semble quand je vérifie que il y a une obligation sur 5 ans. Ça veut dire qu'effectivement au bout des 5 ans, vous devrez avoir récolté tant. Mais vous pourriez aussi, vous, en quelque sorte, dire, ben, on récoltera un peu plus après, mais là, dans ce temps de disette et de crise, on baisse de 15 centimes notre litre.
C'est quelque part notre proposition, c'est de suspendre ça provisoirement. Mais attendez, là, on en discute, mais nous, le retour qu'on a eu hier, c'est que c'est déjà négatif, que le gouvernement
il ne veut pas
d'accord avec cette contre-proposition. Donc, voilà.
Ils disent, on a un objectif, s'assurer, voilà ce que Maud Bréjon a déclaré hier, s'assurer que les baisses seront répercutées aussi vite que les hausses. Ils continuent à vous dire que ça n'est pas normal que le prix soit aussi élevé.
C'est l'explication qu'on vient de faire il y a un instant. Des stocks qui se réduisent, doucement parce que les gens consomment moins qu'au début de la crise. Par contre, je répète devant vous mon engagement que je dis depuis des semaines chez Coopérative U. On s'engage à répercuter au plus vite les baisses comme on avait répercuté les hausses parce qu'on achète au quotidien. On achète au quotidien.
Dominique Schelcher, on va revenir aussi sur les conséquences. La croissance de la France a été revue à la baisse. L'inflation va sans doute remonter et ce sera sûrement visible dans vos propres rayons. Mais il y a aussi deux questions que je voudrais vous poser encore sur l'essence. L'une, sur le tournant. Vous aviez situé, je me souviens, au-delà de 6 semaines, oui. C'est ce que vous aviez déclaré au début de la crise, au-delà de 6 semaines, ça va être de plus en plus difficile, à la fois sur les prix et sur la disponibilité. On y est, ça fait 6 semaines. Est-ce que ça veut dire que désormais, en plus de la question des prix, et notamment de la spéculation, de la hausse des prix, peut désormais surgir un problème de pénurie?
À date, il n'y a pas de pénurie. Il y a des ruptures ponctuelles. Il faut faire la différence entre pénurie, donc non accès à la marchandise, et rupture ponctuelle, parce qu'à un moment, il y a une station qui a beaucoup vendu. Donc, il n'y a pas de problème de pénurie ce matin. Mais plus le conflit va durer, plus les chaînes logistiques mondiales sont perturbées, plus il y a un risque à terme d'avoir une perturbation. Et Monsieur Pouyanet, patron de Total Energy, l'a dit lui-même. Le kérosène, mais pas que le kérosène, le diesel aussi. Pourquoi le diesel? Parce que le diesel, on ne le fabrique pas en France, on l'importe. Et dès que, dans une période où les chaînes logistiques sont perturbées, où on est dépendant d'une importation, c'est là que ça peut, à terme, coincer. On n'en est pas encore là. Mais plus le conflit va durer, plus il y aura des questions. Et là, il faudra interroger
On est dans ce tournant. On est dans ce moment où vous dites attention.
On y est. Et ce que j'observe ce matin, mais là, c'est les spécialistes qui le diront, on a l'air de partir dans un conflit qui dure sans résolution directe, avec un prix du baril élevé et des perturbations logistiques. Et je vais vous donner un exemple.
C'est le transport. Hein.
C'est le transport. Quelle est la partie du monde où c'est le plus compliqué? En Asie. En Asie, aujourd'hui, il y a des rationnements de carburant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Asie se bat pour avoir des pétroliers. Et donc, parfois, il y a des pétroliers qui sont déroutés vers l'Asie et ce pétrolier n'arrive pas en Europe. Et donc, demain, si ça s'amplifie, ça peut...
On sera obligé d'arriver à une logique de rationnement?
On n'en est pas du tout là. Mais la question est là et il faut continuer à observer et à surveiller ça de très près si le conflit dure.
Ce matin, j'avais une auditrice sur RMC, Christelle, qui m'appelait du Loiret et qui fait de nombreux kilomètres tous les jours pour aller travailler. Elle dit on est au bord d'un burn-out de gasoil. Voilà ce qu'elle avait comme expression. Elle avait été gilet jaune. Elle dit aujourd'hui, honnêtement, moi, je vais passer à une forme quasiment, elle dit, je vais me mettre en arrêt maladie, cette fameuse expression, mais au fond, elle dit parce que je n'ai plus les moyens d'aller travailler, je ne vais pas payer pour aller bosser. Elle dit, ce ne sera peut-être pas les gilets jaunes, ce sera peut-être une grande épidémie d'arrêt maladie parce qu'on ne pourra pas aller travailler. Est-ce que ça, vous commencez à le ressentir, y compris parce que vous êtes aux avant-postes aussi de la vie des Français et de leur consommation?
Je sens une énorme résignation et une adaptation quotidienne. Les Français sont dans l'adaptation autour d'abord de la voiture et du carburant. Si la question, par exemple, il n'y a pas d'impact visible vraiment dans le caddie. Mais par contre, l'utilisation de la voiture, je fais un trajet en moins, j'emmène plusieurs enfants à l'école, je ne vais pas au restaurant en voiture et je me pose déjà des questions sur mes vacances en été en voiture. Ça, on est complètement dedans. Mais je sens plutôt une sorte de résignation, de dire encore une crise qui nous tombe sur la tête et on trouve les meilleures solutions pour y faire face. On est là-dedans pour l'instant.
Est-ce que vous anticipez un retour de l'inflation ?
Actuellement, nous répercutons dans nos magasins sur la partie alimentaire uniquement le résultat des dernières négociations qui se sont achevées le 1er mars et qui nous sortaient une très faible inflation entre 0 et 1%. Et ça n'est que ça. Il n'y a à date d'aujourd'hui aucun impact de cette guerre en Iran sur les prix de l'alimentation. Mais des questions se posent, encore une fois, s'il dure à long terme. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du carburant, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du plastique. Les billes de plastique qui permettent de fabriquer nos emballages, nos barquettes pour la boucherie, le plastique qui emballe, etc., vient beaucoup de cette région du monde. Et donc là, on a des premiers signaux de quelques industriels de dire, attention, il y a le carburant, il y a le plastique, ça nous pose un problème.
Est-ce qu'ils vont, à ce moment-là, refrapper à la porte et dire, nous sommes obligés de renégocier? Je précise bien, pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, en effet, habituellement, une fois par an, vous décidez des prix. Et dans
Absolument.
Ce cas-là, ça permet une forme de stabilité tout au long de l'année. Il est prévu par la loi une exception possible si vraiment ce n'est pas tenable. C'est-à-dire, il se pourrait que dans un mois, dans deux mois, si on s'installe dans un conflit durable, ils reviennent vous voir et qu'ils vous disent, voilà, moi, le prix de ma bouteille, le prix de mon emballage, ils ont trop augmenté, voire même le prix de mon engrais pour ceux qui font la matière première. Et qu'ils vous disent, on rouvre les négos, moi je peux plus vous le vendre au prix où on avait signé le contrat, je suis obligé d'augmenter les prix. Est-ce qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui qui commencent à vous dire, ça coince?
Il y a les premiers coups de téléphone, mais pas de demandes massives comme en 2022 au moment du début de la guerre en Ukraine. Donc je pense que tout le monde est en train d'essayer de chercher des solutions. Même nous, les camions tous les jours qui livrent nos magasins, ça nous coûte plus cher en carburant. Mais pour l'instant, on l'absorbe, on l'assume, on le prend en charge. La question, c'est si ça dure. Sur ces points, il y a une alerte. Je relativise un peu le sujet de l'engrais parce que heureusement, beaucoup d'agriculteurs français s'étaient couverts pour cette année, parfois même sur deux ans. Pas tous. Ceux qui sont couverts, ça va aller pour cette année. Par contre, l'année prochaine...
Ils seront ouverts, vos magasins, le 1er mai ou pas ?
Ben non.
Non ?
Ben non.
Il n'en a jamais été question.
Lorsque
la CGT disait que l'un des motifs d'opposition à ce projet du gouvernement, c'était de dire que ça allait vous permettre à tous d'ouvrir.
Mais nous, on n'a jamais, chez Coopérative U, été des défenseurs de cette ouverture-là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que nos collaborateurs puissent se reposer. Et on n'a jamais, nous, demandé l'ouverture du 1er mai. Par contre, que les boulangers, que les fleuristes, mais de manière très ciblée, pour que derrière, il n'y ait pas de sujet de concurrence non plus, que eux puissent ouvrir s'ils le veulent, eux-mêmes, sans collaborateur. Pourquoi pas ? Mais nous, on ne le réclame pas, on ne le souhaite pas, et on est content un jour que...
De pouvoir souffler.
Qu'on puisse souffler, absolument.
Merci beaucoup, Dominique Schelcher, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes donc le président de Coopérative U, tous les magasins U. Vous le dites, ce décret qui a été évoqué par le gouvernement, vous n'y croyez pas, vous pensez qu'il n'arrivera pas, et de toute façon, il serait injuste, inapplicable et illégal. Voilà ce que vous nous dites. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.